Chapitre 3. La côte est déserte. Depuis une heure, le sloughi est couché sur le sable. Personne n'est encore apparu sur la plage. Sous les arbres et au bord de la rivière, on ne voit rien, ni maison, ni habitant. « Nous voilà à terre. C'est déjà quelque chose, » dit Gordon. « Mais quelle est cette terre qui semble inhabitée ?»«
J'espère qu'elle est au moins habitable, » répond Brian. « Nous avons des provisions et des munitions pour quelque temps, mais il nous manque un abri. Il faut en trouver un, au moins pour les petits. »«
Oui, tu as raison, » répond Gordon. « Et il faut aussi savoir où nous nous trouvons. Si c'est un continent, nous pouvons trouver du secours. Si c'est une île, en plus inhabitée, eh bien, nous verrons.
Pour le moment, nous pouvons vivre encore sur le sloughi jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose de mieux. Mais il est temps de manger. Moko, avec l'aide de Service, qui aime bien cuisiner, s'occupe de préparer un repas. Tous mangent de bon appétit, et à la fin du repas, on dit même quelques plaisanteries. Seul Jacques Briand, pourtant toujours si drôle, ne participe pas à la joie de ses camarades. Ce changement dans son caractère est bien étonnant. Enfin, après tant de jours et tant de nuits passées au milieu de la tempête, tous n'ont plus qu'un désir, dormir. Les petits se jettent aussitôt sur leurs couchettes et les grands décident de veiller à tour de rôle, car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais la nuit est très calme. Le lendemain, on fait l'inventaire des provisions et du matériel qu'on peut encore utiliser. Pour le matériel, tout va assez bien. On dispose d'armes, d'instruments, de vêtements chauds et légers, utiles dans toutes les circonstances, surtout si les enfants doivent vivre là beaucoup de temps avant l'arrivée de secours, et d'outils. Le problème le plus grave est celui de la nourriture, car la côte semble vraiment déserte. Il faudra donc penser à pêcher et à chasser. Les jours passent et la question de savoir où on est continue de préoccuper les grands.
« Je suis prêt à aller faire une exploration, » dit Brian.
« Moi aussi, » répond Doniphan.
« Bien, » dit Gordon. « Cela me semble une bonne idée. Dès que le temps le permettra, vous partirez. »
En effet, depuis la veille, une pluie fine tombe souvent et empêche les jeunes garçons de mettre leurs projets à exécution. Le lendemain, le temps est encore plus mauvais. Le vent souffle violemment et la pluie ne cesse de tomber. Cette situation dure pendant plusieurs jours. Les garçons passent leur journée dans le yacht et en profitent pour réparer le bateau qui a bien souffert pendant la tempête. Lorsque la pluie et le vent se calment un peu, Doniphan, Webb et Wilcox vont chasser des oiseaux. Quant à Garnett, Service, Cross, auxquels se joignent les petits, ils s'occupent de ramasser des coquillages et de pêcher. Le 27 mars, une capture plus importante donne lieu à un incident très amusant. Pendant l'après-midi, la pluie ayant cessé de tomber, les petits sont allés du côté de la rivière avec leur matériel de pêche. Soudain, on les entend crier
« Arrivez ! Arrivez !» crie Jenkins.
« Venez voir Costard et sa monture !» dit Iverson.
Tous accourent et voient Costard monter sur une énorme tortue. Surprise sur la plage, elle cherchait à regagner son élément naturel. Brillant éclate de rire en voyant le spectacle. Mais pratique, il voit aussitôt l'intérêt de la capturer.
« Il n'y a qu'un seul moyen, » dit Gordon, « c'est de la renverser sur le dos. »
Ils joignent toutes leurs forces et après bien des efforts, ils arrivent à la renverser. Là, elle est totalement prisonnière, car elle ne peut plus se remettre sur ses pattes. Brian lui frappe alors la tête d'un coup de hache, si bien qu'elle perd aussitôt la vie. On la dépèce sur place pour pouvoir la transporter jusqu'au yacht. Cette tortue va donner plus de 50 livres de viande, ce qui permettra d'économiser les conserves du bateau. Le mois de mars s'achève dans ces conditions. Avant que l'hiver arrive, les grands veulent absolument savoir où ils se trouvent et ils décident de faire un voyage de reconnaissance. Le 1er avril, il semble évident que le temps va s'améliorer et les enfants font les préparatifs pour leur expédition.
Le jour du départ arrive enfin. À 7h du matin, Brian, Donifan, Wilcox et Service quittent le Sloughi, accompagnés de Fan. Ils prennent la direction de l'Est. Ils emportent avec eux des provisions pour 4 jours et des armes. Ils se dirigent d'abord vers la falaise. Après l'avoir franchie, ils pénètrent dans une immense forêt. Là, ils avancent lentement, car la végétation est si dense qu'ils doivent à tout moment couper les herbes à coups de hache. Vers 7h du soir, n'ayant toujours pas atteint la limite de la forêt, ils décident de passer la nuit sous les arbres. Le lendemain, à 7h, Brian et ses compagnons sont réveillés par les cris de Service qui est debout depuis un moment. « Venez voir ça, c'est vraiment étonnant !» Et il leur montre une sorte de cabane de feuillage. « Il y a donc des habitants ?» dit Donifan. « Ou du moins, il y en a eu !» répond Brian. Il visite soigneusement la cabane et trouve un morceau de terre cuite qui doit provenir d'une assiette. Cette découverte leur semble étrange. Vers 7h30, les jeunes gens reprennent leur route vers l'est. Ils sortent enfin de la forêt et découvrent une plage et la mer qui s'étend au loin. Quelle déception! Ils sont bien sur une île. Ils décident de déjeuner et de se remettre rapidement en route pour arriver au Sloughi avant la tombée de la nuit. Après le repas, qui est fort triste, Donifan ramasse son sac et son fusil et dit « Partons !» Tous se lèvent. C'est alors que Fan court vers la mer et se met à boire. « Il boit ? Il boit !» s'écrie Donifan. Il court à son tour derrière Fan et se met aussi à boire. L'eau est douce. C'est un lac qui s'étend jusqu'à l'horizon. Ce n'est pas la mer. La question de l'île ou du continent n'est donc toujours pas résolue. Les jeunes garçons décident alors de descendre vers le sud en longeant le lac. Vers 7h du soir, la nuit étant tombée, ils s'installent entre les énormes racines d'un arbre pour dormir après avoir avalé un rapide dîner. Le lendemain, après avoir examiné l'endroit où ils se trouvent, Wilcox s'écrie « Heureusement que nous n'avons pas continué à marcher hier soir. Il fallait franchir une petite rivière. Puis on trouvait un marais. » « En effet, » répond Brian, « c'est un marais qui s'étend vers le sud et on n'en voit pas la fin. »« Regardez ces canards, ces bécassines qui volent à la surface. Il faut s'installer ici pour l'hiver, car nous ne manquerons pas de provisions. »« C'est une bonne idée, » dit Brian. « Cherchons un endroit. » Il se met à regarder un peu partout. Et soudain, son attention est attirée par des planches de bois entassées sur le bord de la rivière. Ce sont de toute évidence les restes d'une barque. Mais ils sont si abîmés que l'on voit immédiatement qu'il y a des années que personne n'a utilisé cette embarcation. Cependant, voilà la deuxième preuve que quelqu'un a déjà vécu à cet endroit. Les jeunes garçons continuent à se promener dans le coin. C'est alors qu'ils remarquent l'attitude du chien. Fan vient de s'arrêter, une patte levée, et soudain, il se met à courir vers un groupe d'arbres qui se trouve au pied d'une falaise du côté du lac. Brian et ses camarades le suivent. Peu après, ils découvrent sur le tronc d'un arbre 2 lettres gravées et une date, le tout disposé ainsi. F.B. 1807. Les jeunes garçons ont à peine le temps de lire cette inscription que leur attention est de nouveau attirée par l'attitude de Fan. Il continue de courir de tous côtés et il disparaît soudain. Puis il revient vers les enfants et tout en lui indique qu'il veut être suivi. « Allons où il veut nous mener !» dit Donifan. Après avoir fait quelques pas, Fan s'arrête devant un tas de broussailles et d'arbustes, toujours au pied de la falaise. Brian écarte prudemment les broussailles et aperçoit une étroite ouverture. « Il y a donc là une caverne ? » s'écrie-t-il. Il n'hésite pas une seconde et décide de se glisser par l'ouverture. Mais avant, par sécurité, Brian lance dans le trou une poignée d'herbes sèches qu'il vient d'allumer. Les herbes brûlent vivement, l'air est donc respirable. Ils entrent. Là, ils trouvent plusieurs objets ayant appartenu à un être humain. Une tasse, du matériel de pêche, un lit avec une couverture usée. Fan, qui est ressorti, aboie de toutes ses forces.
Les jeunes gens courent le retrouver. Là, au pied d'un arbre, un squelette est couché sur le sol. Les garçons le contemplent, impressionnés. Ils retournent à la caverne. Ils veulent en savoir plus sur cet homme qui est venu mourir là. Ils trouvent d'autres objets et, sous un coin de la couverture, un cahier aux pages jaunies par le temps. C'est le journal de la vie de cet homme. Il s'appelait François Baudouin. Il était marin et, après une tempête, il avait échoué sur cette terre où il a trouvé la mort. Dans le cahier, Doniphan trouve un papier plié en deux. C'est une carte que Baudouin a tracée. Après l'avoir examinée attentivement, les enfants découvrent que la mer entoure de tous côtés l'endroit où ils se trouvent. Ils sont donc sur une île. Voilà pourquoi François Baudouin n'a pas pu en sortir. Les jeunes garçons décident alors de rentrer au plus vite à Sloughi Bay, comme ils appellent le camp où ils vivent.